Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. C'est la grâce mat et de la chance d'être en jour férié. C'est la partie culture de l'émission. Nous recevrons la romancière Justine Lévy qui sera en studio avec nous dans quelques instants pour parler de son dernier livre, Histoire de famille, publié chez Flammarion. Pardon. Et puis dans les indispensables de la musique avec Stéphane Echer qui repart sur les routes et qui publie un nouvel album et une série télé, The Morning Show. C'est la série événement de la plateforme télé d'Apple, Apple TV+, qui démarre en ce moment en France. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
C'est le journal de la culture, vous êtes là, bien présente, mais vous démarrez par un petit lapin.
Oui, un lapin posé hier par Jean Dujardin à TF1, invité dans le journal de 20h pour promouvoir le nouveau film de Roman Polanski, J'accuse. L'acteur a finalement annulé sa venue, alors la raison, la nouvelle accusation de viol mettant en cause le réalisateur. Une nouvelle affaire sur laquelle Jean Dujardin ne souhaitait pas s'exprimer. La plaignante est une photographe française, Valentine Monnier. Elle s'est confiée dans les colonnes du Parisien et affirme avoir été frappée et violée par Roman Polanski en 1975, alors qu'elle avait seulement 18 ans. Les faits se seraient passés lors d'un séjour au ski en Suisse, à Stadt. De son côté, le réalisateur réfute ces accusations et il réfléchit à une riposte judiciaire.
Incroyable, un général de Napoléon identifié 200 ans après sa mort au combat.
Découverte réalisée conjointement par des scientifiques marseillais et des archéologues russes. Le squelette qu'ils ont retrouvé à Smolensk en Russie est bien celui du général Gudin, un général de Napoléon disparu en 1812. La découverte date de l'été dernier. Ce général avait été fauché par un boulet de canon russe. Alors pour être sûr qu'il s'agit bien du général Gudin, il a fallu faire parler l'ADN. Et oui, et c'est dans un laboratoire de la police scientifique de Marseille qu'un expert a prélevé sur les restes du cadavre des cellules dans un fémur et une dent. La comparaison avec l'ADN de la famille du général s'est révélée donc positive. Voici donc un mystère vieux de 2 siècles, Philippe, enfin résolu.
En fait, j'ai vu un sujet, c'est absolument magnifique. On continue, Hélène, ce journal en musique.
Et pas n'importe quelle musique, ah quand même, celle de Prince, le chanteur disparu en avril 2016. Et si je vous dis qu'un titre totalement inédit a été dévoilé, vous me répondez ?
Ça ne m'étonne pas du tout. Il était tellement prolixe, Prince, je suis sûr qu'il y a des milliers de titres non dévoilés, non ?
Et c'est le cas, le 29 novembre prochain sortira la réédition de son album mythique 1999, 2 lives inédits enregistrés fin 1982 et 2 disques avec 23 titres aussi inédits. Mais il fait pas les choses à moitié.
Je disais 1000 comme ça en blaguant, mais 23, c'est pas rien.
Ah bah oui.
Il y en a qui font 2 albums avec ça.
Non mais c'est Prince en même temps. Alors l'un d'entre eux a été publié. Alors on le nomme l'inédit princier, ce qui est plutôt beau. Ouais. Et il s'appelle Don't Let Him Fool Ya. Écoutez.
Je ne saurais pas dire quoi, mais on dirait une maquette d'un titre de lui qu'on connaît déjà.
Bah de Controversy, non ?
Ouais.
Ouais, c'est vrai. Alors, il a été enregistré en 1982. Alors, certains fans l'auraient déjà entendu via des disques dits pirates. Vous savez, des choses un peu...
Des sonorités, bien sûr.
Exactement. Mais c'est la première fois que le son est aussi clair. C'est donc sur son album le 29 novembre prochain, la réédition donc.
Et maintenant, on va prendre la direction de Lyon, où l'univers d'Yves Saint-Laurent est mis à l'honneur.
Alors, nous allons plus précisément ce matin au Musée du Tissu, avec l'exposition Yves Saint-Laurent, les coulisses de la haute couture à Lyon. Cette exposition raconte compte les 40 ans de collaboration entre le couturier Yves Saint Laurent et les prestigieuses maisons de la soierie à Lyon. Plusieurs robes sont exposées, peu connues d'ailleurs. Certaines n'ont jamais été présentées. Elles ont été prêtées par le musée Yves Saint Laurent à Paris. Parmi elles, la robe de mariée Shakespeare qui date de 1980, où 5 maisons soierie lyonnaises ont été sollicitées. Alors il y a aussi dans cette exposition des croquis originaux du couturier, des photos de lui dans les ateliers lyonnais, des archives inédites avec toutes les étapes de la création. Alors c'est une jolie renaissance pour le musée du tissu qui a frôlé la fermeture pour cause de difficultés financières. Il a été racheté il y a un an et demi.
Et puis on va continuer ce journal avec un biopic sur les Bee Gees.
Bon, qui danse dessus en soirée ?
Tout le monde.
Merci.
Même au réveil, on peut danser dessus.
Là, regardez, là, on danse. Ouais. Il est 10h09 et voilà.
C'est tellement génial, ce titre, ça n'a pas vieilli.
Non, pas du tout. Alors, on peut le dire, c'est un peu la folie des biopics. Après Rocketman pour Elton John, Bohemian Rhapsody pour Queen, c'est au tour des trois frères, les Bee Gees, chapeautés par Graham King, producteur de Bohemian Rhapsody. Steven Spielberg est aussi dans la boucle avec sa boîte de production. D'ailleurs, il a ce projet en tête depuis 10 ans. Même si il n'en sera pas le réalisateur apparemment. Alors le seul membre des Bee Gees encore vivant, Barry Gibb, aurait enfin débloqué les droits. Qui maintenant pour interpréter les membres de ce groupe mythique à plus de 220 millions d'albums vendus dans le monde.
Et puis la question qu'on se pose, c'est aussi quel coiffeur ? Charlize Theron récompensée aux États-Unis.
Charlize Theron.
Theron.
La première fois, je peux reprendre Philippe Vandel sur un mot anglais, j'en suis ravie.
Ouais. Je pensais à Roger Théron, l'immense fondateur de Paris Match.
Non, là c'est Charlize Theron. L'actrice a reçu le prestigieux prix de la Cinémathèque américaine. C'est l'une des récompenses les plus importantes d'Hollywood. Il est décerné chaque année. Donc un prix qui récompense les 25 ans de carrière de l'actrice, notamment pour son audace. Le réalisateur Jason Reitman a déclaré lors de la cérémonie « C'est l'actrice la plus audacieuse avec laquelle j'ai jamais travaillé et probablement la personne la plus audacieuse que j'ai jamais rencontrée. » Charlize Theron, quant à elle, s'est exprimée avec beaucoup de naturel lorsqu'elle est venue chercher son prix en affirmant « Je suis bouleversée, j'ai besoin d'un cocktail. »
Voilà, bonne excuse.
C'est dit, mais oui, c'est bonne ambiance. Ouais. Elle rejoint au palmarès du prix de la Cinémathèque américaine des acteurs prestigieux comme Al Pacino, Julia Roberts ou Bradley Cooper, honorés l'an dernier.
Je peux vous dire, j'ai déjà dit à l'antenne Pizza Hut. Woody Allen retire sa plainte contre Amazon.
Le réalisateur réclamait 68 millions d'euros au géant d'Internet pour rupture abusive de contrat. Il avait porté plainte en février dernier puisque Amazon avait mis fin à leur engagement lorsque Woody Allen a été visé par des accusations d'abus sexuels sur mineurs. Elles ont poussé Amazon à annuler la sortie aux États-Unis du film Un jour de pluie à New York, donc le dernier film du réalisateur, en refusant aussi de verser les 9 millions de dollars prévu pour le financement. De nombreuses personnalités américaines ont depuis pris leur distance avec Woody Allen, ce dernier qui a toujours nié les différentes accusations à son encontre.
Et puis on termine par l'ouverture du festival du film de Sarlat.
La 28e édition commence dès demain, plus précisément, c'est le festival des lycéens, on peut le dire. Ils seront plus de 60 à se retrouver à Sarlat pendant 5 jours.
60 ?
Oui. 60 lycéens qui viennent de la France entière. Ils sont en option cinéma, ils viennent donc de toute la France. Voilà, ils vont rencontrer des professionnels, participer aux divers ateliers et ils vont travailler. J'ai dit 60, c'est pour ça que vous m'avez repris ?
Oui, parce que sur ma feuille, il y avait écrit 600.
Non, bah c'est 600, pardon.
Voilà.
Donc en plus, j'entends pas.
C'est vrai.
Donc voilà, donc ils seront plus de 600 à se retrouver à Sarlat pendant 5 jours. Ils vont rencontrer donc énormément de gens. Ils vont travailler aussi autour du film du bac. Cette année, c'est le film Cléo de 5 à 7 de la réalisatrice Agnès Varda, disparue au printemps dernier, qui sera le sujet d'étude. Julie Gaillé comme invité d'honneur. Il y aura aussi Gérard Lanvin, Olivier Marchal, 6 films en compétition, 12 premiers longs métrages, 23 longs métrages en sélection Tour du Monde et 10 courts métrages. Belle programmation donc.
Vous êtes sûr des chiffres ?
Oui, sûr.
Merci Hélène Manarino. Oui.
Culture Média revient avec Philippe Vandel dans 3 minutes. Le temps d'écouter un duo qu'on n'attendait pas. Le rappeur Maître Gims et la légende anglaise Sting. Leur clip a déjà plus de 20 millions de vues. C'est Reste sur Europe 1. Reste de Maître Gims et Sting.
Europe 1.
La partie culture va commencer dans quelques minutes. Ce matin, Philippe Vandel reçoit Justine Lévy qui vient de sortir un livre un petit peu spécial. Vous allez vite comprendre. Elle vient nous en parler dans un instant sur Europe 1.
« 9h30, 9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Philippe, on accueille tout de suite Justine Lévy.
Bonjour Justine Lévy.
Bonjour Philippe Bondel.
Vous êtes romancière, vous avez publié Mauvaise fille, rien de grave, plus de 200 000 exemplaires vendus, ça fait toujours plaisir. Et le dernier, La gaieté, c'était aux éditions Stock. Et là, vous signez un ouvrage totalement hors des clous et du temps, et c'est un compliment, un livre de photos qui ne sont pas de vous. On ne sait pas de qui ils sont d'ailleurs. En revanche, les textes sont de vous. Sur la couverture, il est écrit « Justine Lévy and the Anonymous Project ». Histoire de famille, racontez le projet pour qui ne connaîtrait pas.
Eh bien, le projet, c'est j'ai dû choisir parmi 700 000 photos d'inconnus dont la plupart sont morts. Et ma consigne, c'était d'imaginer absolument ce que je voulais. Sur sa photo.
Alors il faut dire, The Anonymous Project, c'est l'une des plus grosses collections au monde de diapositives anonymes. Oui. À quoi ça sert? C'est qui sont ces gens? Qui sont les gens d'Anonymous Project? Comment vous ont-ils contacté? Pourquoi vous? Et pourquoi avez-vous dit oui?
Alors, oh là, ça fait beaucoup de questions oui, pour un matin comme ça, férié.
Alors, vous avez raison.
Ils sont venus me contacter par l'intermédiaire d'une éditrice qui s'appelle Alix Penant et qui connaît mon Instagram et qui s'est dit, tiens, elle est marrante celle-là. Enfin, je ne sais pas ce qu'elle s'est dit en fait,
ouais.
Mais non, c'est peut-être pas ça qu'elle s'est dit. Mais donc, elle est venue me voir en me proposant ce projet-là. Et je suis allée voir l'exposition parce qu'ils exposent beaucoup ces photos-là un peu partout dans le monde.
Ouais.
Enfin, moi, je suis allée à Paris. Et j'ai trouvé ça rudement effrayant. Donc, j'ai d'abord dit non. Et puis, ils m'ont eu à l'usure.
J'adore que vous dites que vous disiez que c'est effrayant, parce que c'est pas effrayant, c'est le texte que vous en faites qui est effrayant. Exemple, une très très belle fille, je le montre aussi à l'image, parce qu'on peut nous voir sur europe1.fr, c'est une très très belle fille avec une très belle robe rose sur une pelouse, et juste le texte c'est « Je suis trop belle pour vivre ici, dans ce bled pourri ».
Bah c'est...
Et je me dis, pourquoi c'est ce qui vous passe par la tête, c'est ceci? Je ne vais pas me lancer dans une psychanalyse ce matin, mais quand même, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a dans la tête, Justine Lévy? On voit une dame d'une cinquantaine d'années, elle met la main sur l'épaule de son mari, elle est en robe, lui est en costume cravate, et vous écrivez ceci. « Je ne comprends pas mon mari. On vit ensemble depuis 50 ans, on dort ensemble, on mange ensemble, on se tait ensemble, mais un jour, je vais lui ouvrir la tête avec un pied de biche pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et peut-être qu'il n'y a rien. »
Ouais, bah peut-être qu'il n'y a rien.
Ouais, mais c'est quoi, vous dormez bien?
Oui, non, heureusement que je mets beaucoup de la folie dans les livres que j'écris. Ça me permet d'avoir une vie normale.
Vous avez fait des textes comme ça pour vous amuser, ou vous avez fait ça parce que c'est ce que vous inspire ces images? Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant ces images?
J'ai ressenti quelque chose d'assez vertigineux, parce que tout à coup, c'est effrayant, l'imagination. C'est vrai, c'est effrayant. J'étais douillettement installée dans une espèce de routine d'autofiction, le confort des petits chagrins, etc. Et puis là, tout à coup, j'avais...
On va parler tout à l'heure de l'autofiction, c'est pas du tout de la routine ce que vous racontez. J'ai rarement lu des choses aussi intéressantes, pardon de ce compliment, c'est le deuxième et le dernier, parce qu'après ça fait trop. Il y a une famille devant un gâteau d'anniversaire, il y a des ballons suspendus pour donner un côté fête. Vous écrivez « Maman va trop boire, papa va s'énerver, l'insulter, elle va pleurer et le frapper, et mes oncles vont se sentir obligés d'intervenir ». Ça va encore être un bel anniversaire de merde. Ça vous fait rire encore?
Mais oui, parce que ça m'a fait rire quand je l'ai écrit. C'est vrai que je ricanais toute seule.
Ouais.
Voilà,
c'était comment vos anniversaires?
Non, c'était pas comme ça. Non, c'est pour ça, voilà, grande liberté de sortir de soi, enfin.
Restez avec nous, c'est la fête à Justine Lévy, comme on dit.
Dans The Anonymous Project, histoire de famille, Justine Lévy a inventé avec humour, mais aussi mélancolie, des histoires à partir de photos d'anonymes. On continue, on parle avec elle dans quelques minutes sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
La romancière Justine Lévy vient de sortir Histoire de famille aux éditions Flammarion. Elle est votre invitée, Philippe Vandel, ce matin dans Culture Média.
Alors, il y a des textes, il y a des photos d'anonymes. Ils peuvent se reconnaître, les anonymes?
C'est ça qui me fait un petit peu peur. C'est ça qui me fait un petit peu peur.
C'est-à-dire qu'ils peuvent vous faire un procès. Normalement, ils sont morts.
Et puis, ce sont des photos qui ont été données, qui ont été trouvées, qui ont été envoyées à Lee Schulman et à The Anonymous Project, et elles ont été offertes, et voilà, elles lui appartiennent à lui.
Ouais, ce vieux monsieur, excès de drogue, d'alcool, de sexe.
Oui, ça se voit.
Ouais. C'est à la fois très beau, très touchant, très méchant, cynique, c'est parfois très drôle. Toutes ces familles, tous ces gens, vous avez dit que vous êtes anti chez eux, c'est-à-dire...
Oh ben je me suis entichée, j'ai vécu avec eux pendant 3 ans, parce que finalement on a mis du temps avant de faire sortir ces histoires-là.
Ouais.
Et donc j'ai changé d'avis à plusieurs reprises, je me suis dit non, finalement ceux-là vont pas se séparer, etc. Donc j'ai j'ai un peu vécu avec eux. Et puis en plus, quand j'apportais mes textes à Ali Shulman et à ça, et ils sont deux, en fait, eux aussi s'étaient anti chez deux et parfois n'étaient pas d'accord pour que j'en fasse des alcooliques ou des drogués, ça leur plaisait pas du tout. Donc, mais bon.
Ah oui, il y a une autre dame qui a une très jolie robe cintrée, elle a des chaussures à talons, et vous écrivez ceci, on sent que c'est elle qui parle. Chouette, une fête, on est prêt à partir. J'ai mis ma robe bleue, celle qui marque la taille, on m'a dit que j'étais chic. Avant, ils me trouvaient belle, ils me disaient oh, tu es belle en m'embrassant avec la langue, et maintenant ils me trouvent chic. J'ai 50 ans, je suis chic, je veux mourir.
Ouais.
Mais il y en a trop qui voulaient mourir.
Oui, comment vous savez ?
Parce que je travaille beaucoup avant de préparer une émission.
D'accord.
Et que votre éditrice a dit, tu fais trop mourir de gens. Il y a trop de gens qui veulent mourir chez toi.
Non, on a compris. On
vrai
a compris.
Ou pas ?
Oui.
Moi, j'aime beaucoup la maman de 5 enfants. Elle a elle a 5 enfants, ils sont en bas âge, elle les a dans ses bras. Et elle dit, pour la fête des mères, je voudrais une journée de silence. C'est vous
pas,
ça.
C'est pas vrai. Mais non, mais moi j'adore le bruit, etc.
Vous avez deux enfants, vous n'avez pas 5.
Oui, c'est ça.
Mais
vous
voudriez
enfants,
une journée de silence pour la fête des mères.
C'est pas ça. C'est qu'on écoute beaucoup de musique à la maison et que je suis pas absolument sûre d'aimer ça. Et c'est, il y a tout le temps un fond sonore quand on arrive. Et c'est vrai que j'aimerais bien un peu de silence. C'est le luxe.
Ouais. Dans une interview récente, vous dites que vous avez toujours aimé les photos. Et dans une autre, vous avez dit que vous détestiez poser. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai?
Bah, c'est vrai.
Vous aimez les photos ou
non,
vous aimez pas poser?
J'aime faire des photos, j'aime regarder les photos. Et comme tout le monde, j'aime pas tellement poser pour les photos. C'est assez rare d'aimer ça.
Mais vous avez vraiment ouvert un compte Instagram à la suite d'une dispute avec votre meilleure amie?
Ouais, c'est vrai. Je voulais vraiment qu'elle regrette. Ben voilà quoi, c'est tout, comme tout le monde, je voulais montrer une belle vie à la plage, des fêtes, de la grande rigolade et de l'ivresse sans elle et qu'elle se rende compte de ce qu'elle avait perdu. Et puis après, je me suis prise au jeu parce que c'est quand même très très marrant.
Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a sur votre compte Instagram alors? Il y a de l'ivresse?
Ben oui, beaucoup. Beaucoup d'ivresse, beaucoup de chats, comme tout le monde. Beaucoup de choses complètement inintéressantes et puis qui... Voilà.
Ça me rappelle une phrase géniale de Desproges qui disait « C'est pas tout d'être heureux, encore faut-il que les autres soient malheureux.
» Ah non, moi c'est pas ça. Moi je suis pas du... J'aime quand les gens sont heureux, je suis très très empathique.
D'accord. Et vous savez, si votre ex-meilleure amie est malheureuse maintenant quand elle voit vos belles photos...
On s'est réconciliés.
Ah, vous êtes réconciliés. Bah tiens, elle nous écoute. Alors je sais pas qui c'est, mais j'espère qu'elle nous écoute.
Justine Levy est votre invitée culture du jour, Philippe Vandel. Reste avec nous jusqu'à 11h parce que Culture Média, ça continue bien sûr, surtout quand Gilles Châtelier et Clémence Olivier arrivent avec leurs indispensables. Alors à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Angèle Châtelier est là avec un nouvel album à vous présenter, tout comme Clémence Olivier et votre invité Philippe Justine Lévy.
Et nous sommes quatre dans ce studio, plus moi, quatre invités dans ce studio, et toutes les quatre, mesdemoiselles, vous êtes en pull. Et justement, dans Histoire de famille signée Justine Lévy, il y a la photo d'un monsieur qui est en pull dans un gros fauteuil rouge. Il tient un journal, c'est un journal québécois, Le Soleil, et il dit ceci, cet homme. C'est ma femme qui me l'a offert, alors je le porte tout le temps. J'aime tellement ma femme. Vous auriez vu son air quand elle m'a tendu le paquet. Ses joues roses, j'aurais pu mordre dans ses joues roses. Mais ce pull, quelle punition. Bon Dieu, qu'est-ce que ça gratte. Et je me suis dit, vous avez dit, il gratte votre pull, Justine Lévy?
Vous m'aviez prévenu que vous alliez faire une vanne.
Ouais.
Mais
vous pensiez pas que c'était de ce niveau?
Là, non.
C'est le 11 novembre.
Voilà.
Vous préférez le petit garçon? Mais quelle horreur, ce petit garçon. C'est un petit garçon. J'explique si vous prenez l'émission en cours. C'est Justine Lévy a récupéré des photos d'anonymes et elle écrit le texte qui va avec sans connaître la personne évidemment. C'est un petit garçon qui est accroupi de dos devant un poste de télé éteint et le petit dit « Aujourd'hui je suis puni, hier aussi et demain c'est probable, ce n'est pas de ma faute si je ne suis encore qu'un enfant » et lui me dit « Si c'est de ta faute et voilà, je suis puni ». Et je me dis donc, votre enfance, ça a pas dû être rose tous les jours.
Mais non, mais alors on est toujours amené à soi, je suis enfin quelqu'un d'autre que moi, c'est cette liberté-là, laissez-la moi.
Mais je vous la laisse. Vous écoutez beaucoup de musique chez vous?
Non, il y a toujours énormément de musique, je vous le disais tout à l'heure, mais
vous l'écoutez pas?
Assez peu, ouais. Je mets des casques de chantier et je m'isole.
Vraiment? Pour pas entendre la musique qui est chez vous?
Oui, parce qu'on écoute beaucoup de hard rock, on écoute beaucoup de... Il écoute, on écoute, donc voilà.
Ouais.
Et c'est pas si grand, c'est pas un palais, donc...
C'est complètement dingue d'avoir un casque de chantier, ça vous dérange pas d'écouter Metallica avec un casque de chantier?
Mais du coup, j'écoute pas Metallica, je vois les gens heureux danser et voilà.
Et les enfants aussi?
Ouais, les enfants aussi.
On va parler musique, il a une moustache qui ne se loupe pas, il n'avait pas sorti d'album depuis 6 ans, Angèle Châtelier.
J'ai nommé Stéphane Echer, mon capitaine.
Ah, elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix.
Moi, je ne déjeune pas. Je suis un photomodèle. Je bois des cafés et des cigarettes le matin pour avoir cette allure juvénile. Mais je crois qu'il y a beaucoup de monde qui utilise cette phrase. Oui, laissez-moi déjeuner en paix. Ouais, ouais. Est-ce que rien ne va bien ? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant. Elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix.
Alors Philippe, c'est difficile de déjeuner en paix avec Stéphane Escher parce que même pour quelques minutes, c'est un moment suspendu, je vous l'avoue. Il prend du temps pour réfléchir à chaque question, le fait souvent avec dérision et malice. Et pourtant, son dernier album, Homeless Song, est comme un journal intime. Il en parle comme d'un recueil de chansons. Homeless Song, Homeless Song, falling on their fears again. Shuffling of feet, an old cardboard beat, and strains of a wayward refrain. While spilling from bars and thumping from passing cars, those who claim to belong to endless whistling. No one is listening to the sound of a home song. Stéphane Escher est actuellement en tournée dans toute la France, en Suisse et en Belgique pour présenter ce recueil. Et c'est vrai que quand on n'est pas musicien, c'est difficile d'imaginer ce que c'est la vie en tournée. Alors je lui ai demandé comment il s'y préparait.
Prenez-moi dans vos bras, mon cher. Prenez-moi dans vos bras, mon cher. Et oublions.
Comment vous vous préparez à la tournée ? Comment vous, vous gérez ça ? Est-ce qu'il y a, vous avez une espèce de morning routine, comme on dit ?
Il faut gérer son angoisse, ça c'est sûr. Et l'angoisse se gère très très bien si vous répétez beaucoup. Et si bien répété qu'à la fin, vous pouvez même faire l'opposé de ce que vous avez prévu. Je ne suis pas un vrai chanteur. Et je ne joue pas très bien la guitare ou le piano. Ça veut dire que je ne dois pas faire des gammes avant un concert. Pendant les soundchecks, vers 17h, je crie un peu dans le microphone. J'aime bien dormir tout juste avant la montée sur scène, ce qui est bizarre pour quelqu'un qui est très nerveux.
Je crois que je vais rester dans mon lit. Je crois que j'ai peu compté dans ta vie. Comment ai-je pu arriver jusqu'ici? Entier.
Angèle, est-ce que le disque a été fait avec son parolier traditionnel, le romancier Philippe Djian ?
C'est lui qui a tout écrit, ça faisait 6 ans qu'il n'avait pas sorti d'album à lui, Stéphane Escher, mais alors par contre ses références sont nombreuses sur ce nouvel album, exactement.
C'est lui, Stéphane Escher, qui a tout écrit.
Exactement. Et pour accoucher de cet album, Stéphane Escher, il a mélangé les genres. Côté texte, il avoue s'être laissé guider par la musique onirique et cinématographique de Nils Fram. Et pour l'attitude, comme il dit, il préfère s'inspirer de grandes master flash, c'est ceux qui ont fait ça en 1982. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Non, non, c'est lui qui a tout écrit, et pas oui. Mais alors quand on entend sa musique comme ça, difficile d'imaginer que Stéphane Escher a dans sa playlist une grande artiste de pop, une artiste qu'il aime beaucoup, j'ai nommé Taylor Swift.
Elle a fait un disque 89 et Ryan Adams, un musicien que j'apprécie beaucoup, qui a refait toutes les chansons dans son style country rock comme ça. Et c'est là que j'ai enfin vu la qualité de ces chansons de Taylor Swift. Et toute sa phase country, j'étais vraiment... Moi j'aime bien des gens qui font bien leur boulot, et je pense Taylor Swift, oui. Non, je commence vraiment à apprécier. C'est dans mes playlists, même le nouveau disque de Taylor Swift.
Alors, est-ce que son album est aussi dansant?
Bah alors on l'entendait quand même, non, ne vous attendez pas à bouger vos fesses comme vous le feriez avec Taylor Swift en écoutant Stéphane Echer. Mais je vous conseille une chose, vous prenez une tisane, vous prenez un plaid, un chaton si vous en avez, et vous plongez dans ce recueil comme si vous lisiez un livre. Stéphane Echer est actuellement en tournée dans toute la France, en Suisse et en Belgique. Il sera à l'Opéra Comique de Paris du 18 au 20 novembre, à Roubaix le 10 décembre ou encore à Metz le 18.
Merci beaucoup Angèle. Justine Lévy, vous êtes fan de Stéphane Echer?
Oui, j'adore Stéphane Echer.
Vous écoutez quoi?
J'écoute pas forcément, mais j'aime ses textes. Et puis, je vais quand même aller le voir. Il donne un concert à Paris, je vais quand même aller le voir. Et puis, ça me rappelle mon adolescence. Et puis, voilà.
Sans casque de chantier, alors. Merci beaucoup. On va l'écouter, Stéphane
Echer.
Et oui,
écoutons Stéphane Echer. Voici Monsieur Je ne sais pas trop, issu de son nouvel album Homeless Songs, tout de suite sur Europe 1.
Stéphane Echer est revenu en début d'année avec un nouvel album, Homeless Songs, le 15e. Et dessus, vous retrouvez cette balade, Monsieur Je ne sais pas trop.
Europe 1.
Justine Lévy est votre invitée, Philippe Vandel. Ce matin, elle reste avec nous jusqu'à 11h pour nous parler de son nouveau livre, The Anonymous Project, Histoire de famille. Et puis Angèle Châtelier et Clémence Olivier sont aussi autour de la table. Alors à tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Ce matin, vous recevez Philippe Vandel, la romancière Justine Lévy, mais il y a aussi Angèle Châtelier et Clémence Olivier qui a une nouvelle série télévisée américaine à nous présenter.
Bonjour Clémence et bienvenue dans ce studio. C'est la
première
fois que vous venez ici dans Culture Média. J'en suis ravi. Vous nous parlez aujourd'hui de la première série d'Apple TV+, la plateforme de streaming lancée au début du mois par Apple. Ça marche, ça fonctionne déjà en France. Et là, le premier programme dont vous allez nous parler s'appelle The Morning Show.
Oui, The Morning Show nous emmène dans les coulisses d'une matinale télé américaine, comme le tout des shows sur NBC ou Good Morning America. Un genre de télématin survitaminé à très grosses audiences, présenté par deux journalistes stars, un homme, Mitch Kessler, joué par Steve Carell, et une femme, Alex Levy, incarnée par Jennifer Aniston.
Jennifer Aniston de Friends?
Oui, exactement, de Friends. Sauf qu'un matin, tout bascule, Mitch est accusé de harcèlement sexuel et renvoyé de l'émission.
On n'avait pas le choix. Il y a plusieurs plaintes pour harcèlement sexuel.
Combien exactement? Qui? Quand?
Je sais pas, c'est confidentiel. Mais le New York Times a eu l'info cette nuit.
Comment?
J'en sais rien. Je ne sais pas d'où vient la fuite. Ça fait chier. Je voulais que ça se fasse discrètement.
Et vous l'entendez, la situation est tendue, même très tendue, mais les producteurs y voient une belle occasion de remplacer le duo de présentateurs qui jugent trop vieux, trop plan-plan. Pour autant, Alex, Jennifer Aniston, n'est pas dupe, elle sent la menace. Alors pour éviter d'être virée dans la foulée, elle trouve une remplaçante à Mitch, Bradley Jackson, joué par Reese Witherspoon, une reporter qui n'a pas la langue dans sa poche.
Votre émission est à chier.
Oh, merci.
C'est
merci.
Même pas de l'info. Vous l'avez fait baisser de niveau pour essayer de récupérer le public de Your Day America à votre détriment.
Vous croyez que ça va vous aider à trouver un boulot, franchement?
Les sujets que j'ai proposés sont bons, ils sont humains, ils sont politiques, ils sont intéressants. Celui sur l'incendie de
l'Union
est tellement opportun, avec les problèmes d'immigration qu'on connaît aujourd'hui. Et je suis navrée si la vie de jeune fille immigrée brûlée vive dans un atelier de misère n'a aujourd'hui aucune valeur pour vous. Mais ça pourrait vous fournir un vrai sujet d'actualité sur les ateliers de misère qui existent aux quatre coins de la ville de nos jours. Mais faut surtout pas faire ça au Morning Show, c'est pas une mauvaise nouvelle qui met du baume au cœur.
Donc ça bastonne, hein. Avec cette série, Clémence, Apple veut frapper fort.
Et oui, et pour ça, la marque à la pomme n'a pas hésité à sortir le chéquier. Apple a dépensé 15 millions de dollars par épisode.
Par épisode?
Ouais, pour vous donner un ordre d'idée, c'est autant que pour produire un épisode de la série Game of Thrones. Mais il fallait au moins ça pour s'offrir une mise en scène efficace et un casting 5 étoiles. Donc je vous disais Steve Carell, Reese Witherspoon, mais surtout Jennifer Aniston. Et c'est un gros coup. La comédienne n'avait plus joué un rôle récurrent dans une série depuis Friends, et c'était il y a 15 ans.
Voilà,
et
puis gros coup, ça peut s'écrire avec deux orthographes. Donc le budget, on a vu, les acteurs sont là, et dans le fond, c'est comment?
Eh bien, vous vous souvenez peut-être, quand Apple avait lancé son premier iPhone, Steve Jobs avait eu cette phrase, « This is a revolution ». Oh. On pouvait s'attendre à la même chose avec la première série Apple. Bon, clairement, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas le cas. La série est loin d'être révolutionnaire. Elle est même assez classique dans la forme. Puis moi, il y a un truc qui m'agace beaucoup, c'est que dans chaque plan, on voit des smartphones, enfin des iPhones, des
non.
Mac. Si. Si, si,
placement
si.
Produit.
Ouais, ouais. Un journal américain a même compté, il y a 320 fois des plans d'iPhone dans la série, donc c'est un peu too much. Bon, ça n'empêche pas la série d'être très réussie, la tension est palpable, les dialogues ciselés et l'humour piquant.
Et puis en même temps, c'est une série qui parle de notre époque.
Et oui, c'est une série de l'ère post-MeToo. Elle montre à quel point le rapport entre les hommes et les femmes a été chamboulé. Alors évidemment, on trouve des hommes qui usent de leur pouvoir, des femmes qui sortent de leur silence, mais plus surprenant, des hommes qui se demandent si leur comportement au travail est condamnable ou non.
Alors The Morning Show est intéressant également car la série porte une réflexion question sur le métier de journalisme.
Et oui, les studios de télé ne sont pas juste un décor. La série décrit très justement les conditions de travail des journalistes, les rythmes compliqués, leur vie privée parfois chaotique. Et puis The Morning Show raconte plus généralement la crise des médias traditionnels face à des chutes d'audience. La série montre comment la façon de faire du journalisme a changé ces dernières années. Elle dénonce la banalisation de ce qu'on appelle l'infotainment, ces programmes qui mêlent divertissement et information. Sauf qu'en choisissant cette voie, certains médias passent à côté de ce qui constitue l'essence même du métier de journaliste, raconter et décrypter le monde tel qu'il est.
Donc c'est une série à découvrir sur la plateforme Apple TV+. Une deuxième saison a déjà été commandée.
Et oui.
C'est cher Apple TV+, combien ça coûte ?
Ça coûte 4,99€ par mois. Sachez que les 7 premiers jours sont gratuits. Et si vous achetez un téléphone, vous pouvez avoir un abonnement gratuit. Oui, je fais la pub d'Apple.
Voilà. Non mais attendez, ça veut dire que si les 7 premiers jours sont gratuits, on peut aller regarder la série, on se fait du binge-watching, on regarde tout en 7 jours et bingo.
Voilà, il ne faut juste pas oublier de se désabonner.
Voilà, il ne faut pas oublier ça. Merci beaucoup, ça vous tente Justine Lévy, cette série. Vous êtes fan de série à la base ?
Comment vous appelez ça, le binge-watching ?
Binge-watching. C'est quand on regarde toutes les séries d'un coup par, par référence au binge-drinking où les jeunes ados se bourrent la gueule en prenant bière sur bière.
D'accord. Alors sans la référence aux jeunes ados, moi il m'arrive aussi de faire du truc binge-watching la nuit avec les séries et c'est délicieux.
Vous pouvez en faire combien d'affilée ? Je veux dire, vous pouvez voir le jour se lever ?
Oui.
Vous êtes fan de quel genre de série ?
Games of Thrones, extraordinaire, bien magnifique, shakespearien, voilà, j'en suis là pour l'instant.
D'accord. Voilà. Dernière saison ?
Non, pas encore.
D'accord. Mais attends, mais on vous raconte pas la fin, mais je crois qu'à la fin, il meurt.
La dernière partie de Culture Média arrive dans un instant. Et pour ce début de semaine, c'est Justine Lévy qui est avec nous. Alors ne bougez pas sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Suite et fin de Culture Média avec toujours autour de vous Philippe Vandel, Angèle Châtelier, Clémence Olivier et bien sûr votre invitée Justine Lévy.
Ce livre qui s'appelle Histoire de famille, vous avez pris des photos d'anonymes des années 60-70 et en couleur. Ce sont des Américains, on a l'impression, ou Canadiens, en tout cas d'Amérique du Nord. Il y a un portrait d'un homme, d'une femme, ils se font face à face. Il y a un type en chemisette, vous écrivez « Voici mon père ». Il y a une dame qui fume une clope très contente sur un très beau fauteuil en velours. Il y a juste écrit « Maman ». Vous écrivez ceci « Les talons qui claquent sur le parquet lustré de l'entrée, le clac du fermoir de son sac, le clic de son poudrier, ses clés qu'elle pose dans le vide-poche en porcelaine et quand elle s'approche de ma chambre, son parfum qui la précède mais que j'ai le temps d'aspirer de toutes mes forces, maman ». Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser à votre père, à votre mère dont vous avez beaucoup parlé dans vos précédents romans.
Oui. Mais là, c'est un portrait d'une mère.
J'ai bien compris. Mais on ne peut pas écrire sur une mère sans... parce que je n'ai pas lu. J'ai fait l'économie de la lecture du texte sur votre père qui est aussi très beau.
Mon père m'a demandé si on ne risquait pas de croire que c'était lui. Mais on voit la photo d'un homme blond qui a une Rolex au poignet. Enfin, voilà, ça n'a absolument rien à voir.
C'est pas lui. Qu'est-ce qu'il vous a dit votre père sur votre livre ? Il l'a lu ?
Il l'a lu. Il avait l'air rudement content. Voilà.
Ah bon, c'est tout ce qu'il vous a dit ? Il vous a dit « je suis rudement content » ?
Non, mais il ne m'a pas dit ça. Je pense qu'il m'a dit « c'est privé ».
Je sais ce qu'il vous a dit.
J'adore pouvoir dire « c'est privé » maintenant.
C'est pas privé, puisque vous l'avez raconté dans le journal.
Ah bon ?
Oui, vous avez dit dans un journal, dans le JDD, il vous a dit « ça y est, tu es libre ». Parce que vous êtes sorti de l'autofiction.
Oui, c'est vrai. C'était un peu une malédiction. Et voilà.
Pourquoi vous dites que c'était une malédiction ? C'était un choix ?
Non, c'était pas un choix, c'était une sorte de nécessité. C'est tellement grand de dire ça, les grands mots, je déteste ça, mais ça m'a vraiment sauvée. Et puis j'avais du mal à en sortir et je me sentais pas le courage ni la capacité d'écrire sur autre chose que sur mes petites blessures. Et ça y est, donc je suis rudement contente, moi pour le coup.
Oh, disons, les petites blessures, votre mari qui se barre avec une autre, et l'histoire de votre maman, c'est tellement incroyable ce que vous avez raconté. Jamais je me permettrais de le raconter si ce n'était pas dans un livre. Votre maman qui est morte depuis, qui était toxicomane, elle se servait, elle vous envoyait toute seule à la crèche, elle cachait la drogue pour passer la douane dans votre nounours. Dites pas que c'est une petite historiette.
Vous avez bonne mémoire. Hein.
Comment Mais je l'avais lu aussi.
Oui, je me rends journaliste bien.
Voilà, c'est pas une petite histoire. Et vous dites...
C'est nos petites histoires à nous.
Ah non, ma maman, elle n'a jamais caché de la drogue dans aucun nounours, ça je peux vous dire. Vous dites, mes romans autobiographiques m'ont rendu malade, je n'en pouvais plus de me retrouver à poil devant tout le monde, c'est-à-dire...
C'est-à-dire qu'en fait, ça me fait du bien de les... De toute façon, je n'avais pas le choix, il fallait que je les écrive, mais en revanche, la promotion, revenir, refarfouiller là-dedans, ouvrir tous les tiroirs, etc., j'étais pas bien après pendant très longtemps.
Et maintenant, ça y est, c'est passé ?
J'espère.
Non mais on peut vous reposer des questions, j'avais pas de questions, mais est-ce que ça y est, on peut en parler librement et
on peut parler enfin d'autres choses et
détacher des contingences.
On peut parler de The Anonymous Project et de ses histoires de famille.
Une livre que j'avais... Non, une dernière question sur rien de grave.
Oui.
Vous aviez vraiment détruit le papier des Inrocks en confetti.
Oui, mais alors depuis j'en ai eu un très bon, je suis contente.
Voilà. Non, mais ce qui m'a étonnée, c'est pas ça. Il y a tout le temps des bons et des mauvais papiers dans la presse. C'est de déchirer un journal.
Oui, j'étais, voilà, j'étais fan.
Il y a cette anecdote géniale. Quand vous étiez à l'école, à la ligne profession des parents, vous vous souvenez ce que vous avez répondu ?
Non.
Vous avez répondu philosophe. Et la maîtresse vous a demandé, c'est quoi un philosophe? Vous vous souvenez de votre réponse?
C'est un monsieur qui passe à la télé.
Exactement. Ouais. Quel effet ça fait de passer à la télé? On a l'impression que vous aimez ça et qu'en même temps vous renaclez. Ou est-ce que je me trompe?
Je suis pas de la génération de tous ces trucs de où on se prend en selfie, etc. Et moi, quand il y a le petit œil rouge à la caméra, je me paralyse et ça me fait peur. Et puis, dès qu'il y a plus de 3-4 personnes, là, ça va. Mais c'est compliqué quand on est nombreux et bon, voilà. C'est pas non plus un enfer. Hein.
Mais là, ça va, vous avez pas souffert?
Non.
Super. Une montre en acier au poignet gauche, je vais le lire comme ça, on saura que c'est pas votre père. Une montre en acier au poignet gauche, des cheveux blonds, tignasses, des changements d'humeur à vous donner le tournis, une voiture par an, un nouveau travail tous les 10 mois, des barbecues le dimanche, la messe à Noël, les pieds sous la table, le rhume des foins, une mauvaise foi terrible, c'est peut-être lui, un peu trop d'alcool de temps en temps, des jours avec et beaucoup de jours sans, des maîtresses en veux-tu, en voilà, l'alarme facile, une voix de star de cinéma, voici mon père. C'est pour ça qu'il vous a dit, c'est pas moi. Hein.
Bah non, du coup, c'est pas lui, vous voyez bien.
Non, c'est pas lui du tout, c'est pas du tout la coupe. Merci beaucoup. Merci Justine Lévy. Je rappelle, The Anonymous Project, Histoire de famille, c'est chez Flammarion. Je vais remercier Clémence Olivier. Merci, d'avoir été avec nous. Merci Angèle Châtelier.
Merci.
Stéphane Echer, salut, on te regarde. demain, 9h, Culture Média avec Martin Veil, le journaliste de TMC, et Maxime Le Forestier. Faut-il le présenter? Merci Justine.
Merci Philippe Bordel.
À demain. Bonne journée sur Europe 1.
Ne bougez pas la journée. On n'est pas terminé. Dans quelques minutes, vous serez avec la bande d'Anne Roumanoff et leur invité du jour, Pascal Légitimus et Caroline Pigozzi.